Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, j'aurais voulu vous parler une dernière fois de la vertu de tempérance et notamment de la vertu de virginité, puisque le Concile de Trente enseigne que la virginité ou même le simple célibat sont plus parfaits et plus heureux que le mariage. C'est ni plus ni moins l'enseignement de saint Paul dans la première épître aux Corinthiens. Cela surprend évidemment, mais si vous vous rappelez ce que j'ai dit sur la supériorité de la vie contemplative et de la pure union à Dieu, débarrassée des soucis du monde, évidemment l'enseignement de saint Paul et du Concile de Trente ne vous surprendra pas. J'en ai parlé également dans mes sermons sur le mariage, l'importance de pratiquer sinon la virginité, du moins une chasteté qui va plus loin que le simple respect des lois du mariage. Et Mgr Lefebvre disait que le mariage est une école de chasteté. Et saint Paul, dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 7, recommande l'abstinence conjugale, la continence, la chasteté aux époux. Pas seulement, il recommande la virginité plutôt que le mariage, mais il s'adresse également aux époux. Comme j'en ai déjà parlé, je n'y reviens pas, et étant donné que nous entrons dans le temps de la passion, il est temps, je crois, que nous passions à la suite de notre enseignement. Nous suivons toujours la somme de saint Thomas d'Aquin. Nous avons l'exemple pour cela de Mgr Lefebvre, dont le dernier écrit, presque le seul écrit, un petit livre, parce que Mgr a plus prêché qu'écrit, dont le dernier écrit était un exposé de la foi chrétienne à la lumière de saint Thomas d'Aquin et de la somme théologique. Nous arrivons donc avec saint Thomas à l'étude, à la connaissance et évidemment à l'amour de Jésus-Christ. Le plan de saint Thomas était celui-ci, c'est un plan logique. Il a commencé par étudier Dieu, la création, et dès qu'on voit la création, la première chose qui saute aux yeux, c'est que l'homme est fait pour Dieu. Le bonheur de l'homme est dans la vision et la possession de Dieu dans l'éternité. Et par conséquent, la deuxième partie de la somme théologique traite de la voie par laquelle l'homme va à Dieu, et c'était la vertu principalement. Ce dont nous avons parlé dans tous les sermons depuis quelques mois. Et saint Thomas aborde maintenant l'étude de Jésus-Christ, qui évidemment en dignité est bien plus importante que la vertu. Seulement, il faut faire très attention à ne pas faire du sentiment, même en matière religieuse, j'allais dire même surtout en matière religieuse, et même par rapport à Jésus-Christ. Ce n'est pas parce qu'on s'enthousiasme pour Jésus-Christ que la vie chrétienne est bonne. Il y a dans les œuvres de Dieu ordre, poids et mesure. Dieu fait tout avec ordre, poids et mesure. C'est très important, ça, mes bien chers frères, parce que le monde moderne est une attaque systématique contre toute vie intérieure, contre toute vie intellectuelle, contre toute réflexion, c'est-à-dire contre toute vie humaine. Et on arrive tellement à soumettre les gens à leur sensibilité qu'on arrive à une religion de sensibilité. Et cette religion de sensibilité dérive très vite. Je ne dis pas que la sensibilité n'a pas sa part, mais il est évident qu'elle est fondée sur la foi et sur la doctrine. Et si nous n'avons pas la foi et la doctrine, si nous n'avons pas la rigueur de la doctrine, si nous n'avons pas la rigueur, j'ai pas dit la dureté, j'ai dit la rigueur, la droiture si vous préférez, de ce que Dieu a fait, si nous n'observons pas avec droiture ce que Dieu a fait, nous serons des modernistes ou des charismatiques. Et c'est pourquoi, avec saint Thomas d'Aquin, nous avons étudié la vertu avant d'étudier Jésus-Christ. Même si on peut regretter d'avoir attendu pour parler de Jésus, Dieu fait homme au milieu de nous, cela donnera à votre vie religieuse, à votre vie chrétienne, une solidité qui est d'autant plus nécessaire à notre époque. La concrétisation de la voie pour aller à Dieu, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, l'homme-Dieu, était-il nécessaire que Jésus-Christ vînt au monde? Saint Thomas nous dit non, ce n'était pas nécessaire, c'est dû au péché. C'est-à-dire que Jésus-Christ est le Rédempteur. Alors, avant d'étudier Jésus-Christ tel qu'il se présente dans l'Évangile et dans le Nouveau Testament, je voudrais avec vous voir Jésus-Christ tel que Dieu le Père le présente dans l'Ancien Testament. Pourquoi cela ? Parce que Dieu le Père a fait deux choses avant la venue du Christ. Il l'a fait désirer. Et deuxièmement, il y prépare les hommes. Il l'a fait désirer parce que on n'aime pas ce qu'on ne désire pas. Notre Seigneur dira qu'on ne peut pas donner des perles à des pourceaux. On ne peut pas donner des perles à quelqu'un qui ne désire pas. Et j'ouvre une parenthèse, c'est tout un des problèmes de l'éducation moderne, qu'on croit qu'on peut éduquer un jeune, je parle surtout de l'adolescent, les enfants, les tout jeunes enfants, il y a une éducation où ils découvrent les choses, mais on les oblige plus. Encore qu'à partir de 7 ans, malgré tout, ils adhèrent quand même à ce qu'on leur donne. Mais de croire qu'on peut donner une éducation sans chercher à obtenir l'adhésion du jeune. Et comme ça ne marche pas, alors on tombe dans l'éducation inverse. Sous prétexte d'adhésion du jeune, on est à la remorque de ce qu'il veut, de ce qu'il désire. D'accord, voilà, on pose toujours la question, d'accord, es-tu d'accord ? Oui, mais c'est très grave ça. Les parents ne sont pas à la remorque des jeunes. Je ferme la parenthèse. Donc, il est très important que nous adhérions, que nous désirions. Et l'humanité, à cause du péché, est partagée entre ses passions qui, lorsqu'elles sont déréglées, sont des passions animales, et son esprit qui tend vers Dieu. L'esprit de l'homme tend naturellement vers Dieu. Dieu a bien fait les choses, hein? Le péché entraîne l'homme vers la chair et vers le monde. Mais naturellement, l'homme tend vers Dieu. Et c'est parce que on déforme l'homme qu'il y a si peu de gens à tendre vers Dieu. Mais si on donnait une éducation correcte, beaucoup, beaucoup tendraient vers Dieu. Dieu, puisqu'il y a eu ce drame du péché originel, Dieu décide malgré tout de sauver l'humanité. Il aurait pu le faire de plusieurs façons, parce que il était totalement libre de choisir le moyen, d'abord de nous sauver ou pas, et deuxièmement, de choisir tel ou tel moyen. Il a choisi d'envoyer son Fils bien-aimé, la deuxième personne de la Sainte Trinité, qui se ferait chair, qui prendrait une âme et un corps semblables au nôtre, dans le sein de la Très Sainte Vierge Marie. C'est la première annonce faite par Dieu après le péché originel. Adam et Ève sont dans le désespoir d'une certaine manière. Heureusement, Dieu vient dans ce qui était le paradis terrestre et qu'il va bientôt fermer pour leur interdire la porte, l'entrée du paradis terrestre à cause du péché. Donc il vient les visiter. Il leur donne la contrition. Il leur fait se rendre compte de la gravité de ce qu'ils ont fait. Effectivement, Adam et Ève ont été des adolescents, des sales gosses, mais c'est grave quand on est Adam et Ève. Hein. Et ils se sont révoltés contre Dieu, et puis leurs yeux se sont ouverts, dit l'Écriture sainte, et ils se sont aperçus que leur faiblesse les a entraînés très très loin, complètement à l'opposé de Dieu. Et Dieu le leur montre, leurs yeux s'ouvrent, et ils comprennent et ils reviennent vers Dieu. Ils reviennent vers Dieu, la preuve, c'est que Dieu leur donne une pénitence et il ne la leur donnerait pas si ce n'était parce qu'il leur avait pardonné et il ne la leur donnerait pas si c'était pour le désespoir. Et il va leur faire une promesse. Il s'adresse au démon et lui dit « Quant à toi, démon, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. » C'était la pire pénitence que pouvait recevoir le démon, punition que pouvait recevoir le démon. Le démon est un orgueilleux, il va être écrasé. Écrasé par le fils d'une femme, c'est-à-dire par un être humain, qui est le bon Dieu, bien entendu, mais qui est un homme en même temps. Et Dieu parle de la femme. Le démon a voulu profiter de la faiblesse de la femme. Et c'est une femme qui va écraser la tête du démon. Une promesse merveilleuse que Adam et Ève entendent et qui est rapportée dans l'Écriture sainte parce que c'est ce qu'on appelle le protévangile, c'est-à-dire le début de l'évangile, le début de la bonne nouvelle. C'est ici qu'elle est enseignée pour la première fois. « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. » Dans le texte grec, c'est entre ta descendance et son descendant. Et son descendant, c'est Jésus-Christ. Les interprètes latins, quand ils lisent sa descendance, parlent également de Jésus-Christ, essentiellement Jésus-Christ. Et elle, tu la mordras au talon, la descendance, le descendant, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et à ce moment-là, il t'écrasera la tête. Tu le mordras au talon parce que le démon, voyant Jésus-Christ, recommencera la même sottise, stupidité qu'avec les hommes. Il croira qu'il ne peut faire qu'une bouchée de cet homme qui est un être faible et qui est inférieur à la nature angélique, parce qu'il ne veut pas voir Dieu, et parce qu'il va oublier que l'homme est protégé de Dieu. Et il veut une deuxième fois oublier que cet homme-ci, Jésus-Christ, dont il n'arrive pas à savoir vraiment qui il est, est-ce qu'il est le Messie, est-ce qu'il ne l'est pas, c'est pour ça qu'il le tente dans le désert, mais il en est pour ses frais, il n'a pas la réponse. Est-ce que cet homme est le Fils de Dieu, est-ce qu'il ne l'est pas? Et il va voir Jésus-Christ se conduire tellement en homme qu'il va croire que cet homme n'est pas protégé de Dieu. Il va oublier, c'est stupide, c'est grave. Et si j'insiste sur cette stupidité, c'est pour que vous compreniez, mes bien chers frères, que nous-mêmes, nous commettons la même erreur stupide lorsque nous péchons et lorsque nous oublions qui est Jésus-Christ et que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'on ne peut pas s'opposer au Fils de Dieu impunément, ni à la Vierge Marie impunément. Et donc le démon, oubliant, parce que ce n'est pas sa préoccupation, que Dieu protège d'une façon toute particulière son Fils bien-aimé, va le mordre au talon, c'est-à-dire dans sa nature humaine. Cela va être la passion et la mort de Jésus-Christ sur la croix, et à ce moment-là, Jésus-Christ écrase la tête du démon. C'est un écrasement définitif. C'est-à-dire qu'après Jésus-Christ, il n'y a plus rien. Nous sommes dans le dernier âge de l'humanité, on est avec le Christ ou on est contre lui, il n'y a plus d'autres possibilités, il n'y a plus d'autres alternatives. Tout l'Ancien Testament va vivre sur cette promesse. Cela va être la grande promesse. Et comme l'homme va oublier cette promesse, c'est tout le drame qui conduit au déluge, parce qu'une deuxième fois, l'homme oublie la promesse de Dieu, c'est-à-dire que, comme le démon, il se conduit de façon stupide. Dieu va choisir un peuple qu'il va former particulièrement, qu'il va dresser, qu'il va éduquer, mais qu'il va dresser un peuple qui a la nuque raide, comme tous les hommes avaient la nuque raide, mais celui-ci particulièrement. Elle a la tête dure et la nuque raide, c'est dans l'Écriture sainte. Et il va le dresser, il va le former, jusqu'à ce que ce peuple soit le peuple qui doit recevoir le Messie. Ce Messie va être annoncé dans l'Écriture sainte de nombreuses fois. Nous ne pouvons faire qu'un bref survol. Annoncé à Noé, annoncé à Abraham. C'est pourquoi nous avons eu, un de ces dimanches de carême, la lecture de l'épître de saint Paul sur Agar et Sarah et les deux fils d'Abraham. Je ne vous en ai pas fait le commentaire, mais le commentaire est celui-ci. Il y a ceux qui attendent le Messie et ceux qui ne l'attendent pas. Ceux qui profitent d'Abraham, Abraham c'est l'Église, Abraham c'est celui qui nous conduit au Messie. Ceux qui en profitent pour se laisser conduire au Messie et ceux qui profitent des bénédictions d'Abraham pour aimer la terre. Et c'est le fils d'Agar. Donc Abraham, et il a eu cette vision qui fut le premier testament, le premier engagement de Dieu. Premier engagement, Dieu s'est engagé, pas seulement à envoyer le Messie, ça il s'y était engagé auprès d'Adam et Ève, mais il s'est engagé à ce que le Messie descendrait d'Abraham. Et Dieu, dans l'Ancien Testament, va annoncer deux choses. Il va annoncer tout d'abord que le Christ sera le Messie, et deuxièmement, qu'il sauvera son peuple par l'offrande de sa vie. Il est très surprenant que dans l'Ancien Testament, l'annonce de la Sainte Trinité ne soit pas faite. C'est qu'il s'agit là d'un mystère beaucoup trop élevé pour être dévoilé de premier abord comme cela au monde entier. Mais il y avait une tradition, c'est-à-dire que tout n'est pas dans l'Écriture sainte. Dieu a parlé, tout n'a pas été écrit. Je vous en parlerai peut-être une autre fois. C'est vrai dans l'Église. C'est pour ça que dans l'Église, il y a deux sources à la révélation, deux canaux de la révélation, si vous voulez, la tradition et l'Écriture sainte. Et les deux sont la parole de Dieu. Eh bien, de même, il y a eu des révélations faites aux grands saints de l'Ancien Testament sur la Sainte Trinité, notamment Abraham a connu la Sainte Trinité, mais Dieu a demandé à ces grands saints de ne pas mettre cette révélation par écrit et d'attendre la venue du Messie pour que les hommes ordinaires fussent préparés à recevoir ce grand message et ne le déforment pas. On voit combien ce fut la sagesse, puisque aujourd'hui, où les hommes ne sont plus bien disposés, ils abusent de ce grand mystère, ils le déforment. Je me réserve une autre fois pour vous parler de toutes les annonces du Messie dans l'Ancien Testament, parce que c'est important, et je voudrais vous dire que, puisque nous entrons dans la semaine de la Passion, il est normal que nous pensions à la mort de Jésus, ça c'est normal. Et c'est même ce que nous demande l'Église. Il est normal que nous pensions à nos péchés qui sont la cause de la mort de Jésus. Mais faisons bien attention. La mort de Jésus-Christ est une ouverture sur le ciel et ceux qui étaient au pied de la croix sont dans une grande charité envers Dieu, un grand amour de Dieu, une grande union à Dieu, une grande contemplation. La contemplation de l'âme de Jésus sur la croix, qui, malgré les souffrances, contemplait son Père éternel, la divinité, la gloire divine qu'il partage à égalité avec son Père. Cette contemplation rayonnait même lorsque notre Seigneur était sur la croix, et la Très Sainte Vierge était pleine de cette contemplation de la divinité de son Fils. Avec lui, elle voyait la grandeur, la majesté, la splendeur de Dieu et l'amour de Jésus-Christ. Et c'est tout le discours de notre Seigneur après la scène, qui est un discours où Jésus-Christ ne parle plus de sa passion, il parle de tout cet avenir, de toute cette richesse qu'il donne à ses apôtres. C'est quand même très surprenant, il a parlé de sa passion avant, et au moment où il va se livrer, c'est un cœur à cœur pour leur révéler son amour, la prière qu'il fera pour eux, le soin qu'il prendra d'eux, leur demander de vivre dans cet amour, de le transmettre, leur dire qu'ils ne sont pas du monde, c'est-à-dire qu'ils sont avec lui. On peut lire de deux façons. Vous n'êtes pas du monde et on fait des efforts pour quitter le monde qui nous colle aux pieds, ou on lit « vous n'êtes pas du monde », c'est-à-dire « vous êtes avec moi ». Au moment où nous entrons dans la quinzaine de la Passion, mes bien chers frères, voyons notre Seigneur sous cet aspect. Notre Seigneur qui nous attire, notre Seigneur qui nous appelle. Et les douleurs de l'Église actuelle sont une incitation à ne pas rester collé sur ces problèmes. Mais au contraire, à voir que les épreuves sont la porte par laquelle Dieu nous entraîne très loin, très haut. Et nous le verrons dimanche prochain avec le triomphe de Jésus-Christ au rameau. Ce triomphe est beaucoup plus important qu'on croit. Il est la lumière qui éclaire toute la passion qui va suivre. Demandez à la Très Sainte Vierge, mes bien chers frères, cette connaissance de Dieu et cette union à Jésus, Dieu, deuxième personne de la Sainte Trinité, qui vit dans la gloire de son Père et qui nous attend, qui nous appelle, qui nous attire à cette gloire dans laquelle il nous fait vivre dès ici-bas. Puisque si notre vie naturelle est sur terre, la vie de notre âme est déjà au ciel, puisque la foi a fait plus que nous lever un coin du voile, elle nous révèle vraiment le grand mystère de Dieu et de la Sainte Trinité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.